21h30 ici à Paris, 2h de moins en temps universel.
Afrique Soir.
Le retour de l'actualité africaine. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Clotilde Dumé. Bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'Afrique également frappée par la guerre commerciale lancée par Washington. La plupart des produits exportés vers le marché américain subiront des taxes supplémentaires de 10 à 50%. Et c'est aussi dans ce contexte que le nouveau conseiller Afrique du président Donald Trump entame une tournée sur le continent. Première étape, la République démocratique du Congo. Il a rencontré jeudi le président Félix Tshisekedi. Et puis un nouveau signe du rapprochement entre la Russie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel en visite ce jeudi à Moscou. L'Afrique n'est donc pas épargnée par la forte hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump mardi. Les produits africains exportés vers les États-Unis vont se voir imposer des taxes allant de 10 à 50% selon les pays à partir du 9 avril. Des taxes proportionnelles au déficit commercial des États-Unis avec leurs partenaires commerciaux, mais aussi proportionnelles aux barrières douanières appliquées aux produits américains. Alors quels sont les pays qui pourraient en souffrir le plus ? Élément de réponse avec Claire Fage.
Le Lesotho est le plus durement taxé à hauteur de 50%. Sont visées ses exportations de textiles, de même que Madagascar et Maurice, respectivement taxés à 47 et 40%. Les diamants du Botswana devraient subir 37% de droits de douane. Les hydrocarbures d'Angola, de Libye et d'Algérie, plus de 30%. Le cacao de Côte d'Ivoire, 21%. Mais c'est l'Afrique du Sud qui risque de payer le plus lourd tribut à ces mesures américaines. Elle est frappée de 30% de droits de douane sur un volume et surtout une valeur de produits incomparable sur le continent, avec près de 15 milliards de dollars d'exportation, dont beaucoup de véhicules et de pièces automobiles. L'Afrique du Sud représente plus d'un tiers des exportations africaines vers les États-Unis. Pretoria souligne l'urgence de négocier un accord de libre-échange avec Washington en lieu et place de l'AGOA, qui accordait zéro droit de douane à 1800 produits africains et qui semble désormais obsolète. Les métaux de base et les minerais stratégiques sont exclus de cette salve de taxes américaines, ce qui devrait épargner le cuivre et le cobalt de République démocratique du Congo.
Une précision signée Claire Fage, l'Afrique frappée de plein fouet par cette offensive protectionniste lancée par Washington, avec donc des droits de douane allant de 30 à 50% pour 9 pays, des droits entre 10 et 20% pour une dizaine d'autres, des hausses tarifaires aléatoires selon Jean-Baptiste Velu, professeur à l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris et spécialiste de l'économie et de la politique commerciale américaine.
C'est une formule mathématique finalement assez douteuse qui fait complètement abstraction du niveau de développement des pays concernés, qui ne considère pas le type de marchandises et est-ce qu'elles sont finalement remplaçables, substituables sur le marché américain. Donc c'est une formule finalement qui n'a été préparée à la va-vite pour plaire à Donald Trump, me semble-t-il. Donc je pense que les pays les plus vulnérables seront ceux qui sont le plus ouverts vers l'extérieur, c'est-à-dire qui ont essayé de développer leur secteur d'exportation. Et là-dessus, on ne peut que regretter que des pays comme l'Afrique du Sud ou les Lesotho, qui dans le cadre de l'AGOA, qui est un accord préférentiel avec les États-Unis, avaient fait un effort de diversification de leurs exportations, qui aujourd'hui est remise en cause par l'administration Trump. Dans le cadre de cette journée de la libération, dont le nom est très mal choisi, me semble-t-il, voilà, tout est remis en cause aujourd'hui.
Voilà l'analyse de Jean-Baptiste Velu, qui était l'invité d'Afrique Midi au micro de Nicolas Sûr. Pendant ce temps, le nouveau conseiller Afrique de Donald Trump poursuit lui sa tournée sur le continent. Il doit se rendre à Kigali, au Rwanda, mais aussi au Kenya et en Ouganda. Pour sa première étape, Massad Boulos, déjà conseiller principal du président américain pour les affaires arabes et du Moyen-Orient, était en République démocratique du Congo. Il y a donc rencontré le président Félix Tshisekedi, où ils ont évoqué les questions sécuritaires, mais aussi leur collaboration économique. Massad Boulos à la sortie de son entretien avec le président congolais.
J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais.
Massad Boulos, le nouveau monsieur Afrique du président Donald Trump, au micro de Paulina Zidi. Les ministres des Affaires étrangères des trois pays de l'Alliance des États du Sahel, ce jeudi à Moscou, c'est la première fois qu'ils se retrouvent ensemble dans la capitale russe. Moscou se félicite d'une nouvelle étape dans la structuration de leurs relations. Correspondance à Moscou, Anissa El Jabri.
Première à reconnaître l'AES, première à la recevoir. La Russie avait ce jeudi consacré du temps et mis en valeur son échange diplomatique avec le Mali, le Niger et le Burkina. Le chef de la diplomatie du Niger, Bakary Yahou Sangaré, est pour sa part allé jusqu'à saluer, je cite, un événement historique qui marque un tournant, assurant, je cite encore, qu'avoir la Russie à leur côté pour lutter contre le djihadisme compte beaucoup pour les trois pays sahéliens. Sur la photo officielle de la rencontre sur le site du ministère des Affaires étrangères russe, figure bien sûr au centre le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et à sa gauche Yunusbek Yevkurov, vice-ministre de la Défense, très discret mais au voyage régulier en Afrique. La marque sans surprise que ce partenariat se joue en effet essentiellement sur l'échange bien connu défense et appui militaire contre ressources naturelles. Notre coopération dans le domaine militaire s'intensifie, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, notamment à l'adresse de son homologue malien Abdoulaye Diop, qui a aussi annoncé une visite officielle du chef de l'État du Mali, Assimi Goïta, en juin, dans la capitale russe. Anissa El Jabri, Moscou, RFI.
Au Mali, l'opposant politique Seydina Touré, condamné ce jeudi à un an de prison ferme, un membre du parti Alternatif pour le Mali. Il avait été arrêté le 2 janvier dernier et était poursuivi pour incitation au trouble à l'ordre public, notamment. Il avait sur les réseaux sociaux appelé à, je cite, combattre le régime anarchique d'Assimi Goïta. Et puis au Niger, l'arrestation ce jeudi matin de l'épouse de l'ancien ministre de l'Intérieur. Maria Massoulé a été interpellée à l'aéroport par les services de sécurité extérieure de la DGSE. Selon sa famille, elle rentrait du pèlerinage de la Mecque depuis plus aucune nouvelle. C'est leur première apparition depuis leur arrestation la semaine dernière à Ouagadougou. Les journalistes burkinabés Gezouma Sanogo, Boukari Ouaba et Luc Pagbegem sont tous les trois visibles dans une vidéo qui les montre en tenue militaire. Les trois hommes de médias avaient été emmenés sans motif ni mandat par des hommes en civil après des déclarations sur les entraves à la liberté de la presse depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. La vidéo confirme donc que les trois journalistes ont bel et bien été réquisitionnés pour combattre au front, Sidiyan Salé.
Dans la vidéo, on voit Gezouma Sanogo et Boukari Ouaba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes de Burkina Faso, et au milieu se tient le reporter de la chaîne privée BF1, Luc Pagbelgem, en uniforme, dans le désert, sur ce qui s'apparente à un centre de recrutement ou d'entraînement militaire. D'après l'attitude des personnes en arrière-plan devant un micro tendu, Luc Pagbelgem affirme que le terrain, je cite, « c'est une autre réalité, on a vu le butin que l'armée a saisi, qui donne tout ça aux terroristes ?» Puis le micro passe à Boukari Ouaba. Nous sommes arrivés ici dans des circonstances particulières, mais nous apprécions car on peut mieux rendre compte, déclare notre confrère, pourtant lui-même réputé être l'un des meilleurs reporters de sa génération. Ce genre de vidéo n'a rien d'inédit. L'an dernier, l'ancien ministre Ablassé Ouédraogo, âgé de 70 ans, était aussi réapparu arme à la main dans une vidéo. Et il y a 2 ans, c'était Boukari Ouédraogo, président du mouvement L'Appel de Kaya, et surtout connu pour être malvoyant. À l'époque, le capitaine Ibé avait reconnu avoir personnellement donné l'ordre de le réquisitionner en déclarant que ceux qui critiquent doivent se contenter de manger, dormir et laisser les autres travailler.
Sidi Yansane, enfin en cyclisme, Binyam Girmay va s'attaquer pour la première fois au redoutable pavé du Paris-Roubaix en France. Quelques jours après le champion du monde Tadej Pogacar, c'est au tour de l'Érythréen d'annoncer sa participation à la mythique classique via un communiqué de son équipe Intermarché Wanty. Binyam Girmay sera donc au départ de l'Enfer du Nord le 13 avril prochain. Triple vainqueur d'étape et maillot vert du dernier Tour de France, l'Érythréen va découvrir à 25 ans une course dont il dit rêver depuis toujours et sur laquelle il espère performer et bien sûr progresser. Il est 21h40 à Paris, 2h de moins en temps universel. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.